Les longs formats. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Les longs formats, l'émission d'interviews et de voyages sonores de Radio et les Bords. Guillaume Perret est à lui seul une preuve supplémentaire que nous vivons une période d'intense créativité des scènes jazz de la planète. À Londres, Los Angeles ou Paris, le jazz vit. Il évolue et surprend grâce à toute une bande de doudingues géniaux qui, tout en maîtrisant les fondations de la note bleue, expérimentent, fusionnent les genres et bousculent les conventions sans complexe. Guillaume Perret est un découvreur de sons. Il joue des pédales et des effets électrifiés pour amener ses notes vers un univers surprenant et inclassable en distordant les sonorités pour les rendre étrangement musicales. John Zorn ne s'y est pas trompé en signant le premier album de Guillaume Perret et The Electric Epic sur son célèbre label Tzadik. Le New-Yorkais reconnaît dans les productions du jeune saxophoniste annécien un certain héritage du rock progressif des années 70 et surtout une grande liberté. Guillaume Perret continue aujourd'hui ses explorations musicales avec Free, un album en solo et saxophone paru en septembre dernier chez Kakum Records, son propre label. Free est un voyage sonore introspectif et exaltant. En solo, Guillaume Perret est libre de nous plonger dans son imaginaire fantastique, de nous embarquer dans une équipée sonore cosmique. Et peut-être surtout, de nous dévoiler l'essence de sa musique. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, juste avant son concert au Brise-Glace à Annecy. Jazz fusion cosmique et trance électronique, c'est Guillaume Perret sur Les Bords. Guillaume Perret, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est dans les backstage du Brise-Glace à Annecy aujourd'hui, juste avant ton concert de ce soir. Tu sifflotes la vie en rose sur la scène, là, tu installes tes machines. Est-ce que tu es heureux d'être à Annecy ?
Ah ouais, ouais, ouais. Et spécialement au Brise-Glace, j'aime beaucoup l'équipe ici, la salle, tout.
C'était comment d'être enfant ? Enfin, toi, c'était comment quand tu étais enfant ici à Annecy ?
Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vécu à la fois un petit peu au centre-ville et puis après, on était dans un petit bled qui s'appelait Proméry, là derrière Pringy, en pleine cambrousse et tout. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les bois, dans les montagnes, à nager dans le lac et tout. Et puis, il y avait le conservatoire qui était à l'époque et qui est toujours un super conservatoire, bien en place. Donc, j'ai eu une éducation musicale assez solide. J'étais dans un super lycée artistique à Baudelaire. C'était vraiment de la bombe où on faisait... On faisait des musiques de films, on faisait des concerts, des festivals des élèves, on faisait des musiques pour des théâtres. Enfin, voilà, c'était déjà de l'expérience professionnelle, en fait, cash, quoi, avec les potes.
Et toi, t'étais quel enfant ?
J'étais un enfant... je pense que j'ai un peu fatigué mes parents. J'étais assez énergique, on va dire. Voilà. Et mauvais élève. Même au conservatoire, en fait, mon prof de classique, il m'aimait bien, mais il me reprochait un tempérament d'artiste. J'ai retrouvé un vieux bulletin de notes, mais tempérament d'artiste, mais genre comme si c'était pas bien. Mais c'est vrai que je travaillais un peu déjà à ma manière à l'époque. J'ai toujours pris les infos que je voulais et puis celles que je voulais pas, je faisais un peu à ma sauce. Et puis bah voilà, ça passait pas toujours bien en cours, mais je me souviens que les examens, je les vivais comme des concerts parce que j'ai toujours adoré jouer. Et du coup, ça passait bien, quoi.
C'est la volonté de faire et le trublion de l'autodidacte.
Un petit peu, ouais. Malgré ces années de conservatoire et tout, je revendique et j'ai toujours enseigné à mes élèves en fait d'aller dehors, d'aller jouer, de faire des groupes, d'aller dans les locaux, de jammer, de jouer dans la rue, taper la manche, de faire toutes les expériences musicales possibles, en fait, de se nourrir de tout et de se former comme ça, en fait, sur le terrain, quoi.
Entre Annecy et aujourd'hui, donc Free, ton nouvel album, il y a un itinéraire assez atypique. Il y a des brillantes études donc au conservatoire d'Annecy puis de Chambéry en classique et en jazz, de la route en sac à dos avec cuivre en bandoulière comme ça, des jams, la Suisse. Il y a New York en 2001 et puis il y a John Zorn sur cette route et puis ensuite il y a Paris. Donc il y a vraiment des kilomètres que t'as fait avec ce sax.
Oui, bien sûr. De toute façon, quand on est musicien, il faut vraiment bouger. Le plus important, c'est déjà de maîtriser son instrument. Après, l'avantage de l'improvisation, c'est que plus on improvise, plus on peut se lier à d'autres musiques, d'autres musiciens. Et puis du coup, ça devient un passeport complètement universel. On peut aller jouer dans tous les pays. C'est ce que j'ai fait, en fait. Et puis moi, pour trouver du boulot, ce que je faisais, c'est que comme je suis pas un grand bavard, en fait, quand je connais pas les gens, je suis d'une nature un petit peu réservée, comme ça, même si on dirait pas. J'allais jouer, j'allais dans les jams, et c'est là que j'ai fait toutes les rencontres, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon réseau en Suisse. C'est comme ça que j'ai été jouer un petit peu dans des jams à Londres, à Berlin, à New York. Voilà, j'ai pas toujours gardé des contacts sur place, mais je suis allé voir ce qui se passait, et puis par la suite, je suis revenu dans ces endroits. Et puis la Suisse m'a énormément apporté parce que là-bas j'ai participé à beaucoup de projets qui étaient très créatifs et puis c'est là-bas que j'ai commencé à expérimenter un peu avec les pédales d'effet et tout ça. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé avec mon son déjà, j'avais mon identité et je suis content de pas être allé vite à Paris comme beaucoup avaient fait parce que je suis vraiment arrivé avec mon identité et puis j'ai monté mes projets là-bas et ça a bien marché quoi, j'ai été chanceux Et puis depuis, ça se pilote un petit peu depuis là, quoi.
John Zorn ?
John Zorn, alors, j'avais fait mon premier album. Ah non, comment ça s'est passé ? J'ai monté mon projet, on a fait des concerts. Donc au début, je faisais le booking moi-même dans les lieux qui me faisaient confiance. Et notamment au Chat Noir à Genève. Super, super club avec Roland et Patrick à l'époque. Qui sont des gars vraiment super et j'ai enregistré une démo là-bas, un concert live et puis j'avais l'adresse personnelle de Zorn.
Comment ?
Via mon ex-copine qui était une danseuse japonaise qui le connaissait, voilà. Et puis qui était en contact avec lui comme ça, voilà, ils se connaissaient tout simplement, ils se faisaient des petits Skype de temps en temps.
Tranquille.
Et du coup je lui ai envoyé à tout hasard, je lui ai dit voilà, je m'appelle Guillaume. Voilà ce que j'ai fait, un live de mon concert et tout. Puis il m'avait envoyé un petit retour super chaleureux. Waouh, ouais, super les gars, ça joue terrible, super créatif, j'espère vous voir en live, à plus. Cool. Et suite à ça, j'ai continué à développer mon projet sur Paris. J'ai eu un petit peu de production, j'ai eu un tourneur qui est venu. Enfin, ça a commencé à se professionnaliser un petit peu plus. Et donc j'ai enregistré mon album, j'ai travaillé pendant 9 mois sur la post-prod, on a mixé et tout ça. Et on savait pas en fait c'est sur quel label le sortir, on était un peu dans le l'interrogation, mais tout était fait, quoi. Le bébé était complètement fini. Et à tout hasard, je l'ai envoyé à John Zorn. Et en fait, là, c'est vrai que c'était une belle surprise parce que dans les 4 heures, il m'avait répondu un énorme mail avec une critique très précise de tous les morceaux, avec un huge respect à la fin. Et puis, il m'avait proposé de le sortir sur son label. Ce que nous fîmes. Voilà.
Format sur les bords. Qu'est-ce qu'on est bien élevé quand on s'appelle Guillaume Perret.
Mais non, ça c'est le côté amicien.
C'est bien ce qu'on disait. Guillaume Perret, tu viens de sortir un album, il s'appelle Free, tu l'as sorti en septembre dernier sur ton propre label, Kakoum Records.
Oui.
Free, on le traduira par libre. Est-ce que tu te sens libre maintenant et pas avant?
Oui, alors disons que, comment dire, je me sens libre. Là, c'est une forme solo, en fait. C'est comme la plupart de mes compositions pour mon groupe venaient d'une forme solo. Je voulais un petit peu restituer cette essence-là, un peu brute. Et du coup, c'est vrai que je suis complètement libre d'aller à fond dans différents styles. Alors, ça se limite pas à un morceau égale un style, hein. Dans chaque morceau, il y a des mélanges de... Il y a de l'Éthiopie, du jazz éthiopien, il y a du rock, il y a du jazz, il y a du contrepoint classique, il y a de l'électro, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Et puis chaque morceau a un peu une identité avec un intérieur plein de mélanges. Mais c'est vrai que je suis complètement libre d'aller un peu où je veux, quoi. Et ça, c'est cool.
Et c'est maintenant.
C'est-à-dire
Ben, ça laisse à penser... Avec un titre comme ça, Free, c'est comme une grosse affirmation. J'ai eu l'impression que ça faisait contraste avec avant.
C'est un peu le contraste, ouais. Et comment dire, je sais pas trop. Oui, c'est un contraste, ça c'est sûr, parce que je passe d'un quartet à un solo. Après, pour moi, c'est aussi une période un peu de transition où je me recentre, je me réaffirme d'une autre manière. Et je pose vraiment ma couleur tout seul. C'est-à-dire que je suis arrivé à un dispositif technique avec les machines que j'ai fixées sur le sax, les différents micros. Je travaille avec plusieurs ingénieurs qui me font des choses sur mesure. Et puis mon pédalier, là, je suis arrivé à un système qui est assez stable. Et puis du coup, c'est devenu un véritable instrument, quoi. Donc j'ai eu besoin avec ce projet de mettre un peu ce dispositif-là en avant. Et puis par la suite, je pense que c'est en train de m'ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire que j'ai envie d'autres collaborations, d'autres directions. Je suis en train de chercher, là. Je ne sais pas encore où je vais aller pour mon prochain projet en groupe, mais c'est en train de se construire tranquillement, quoi.
Et la liberté, quand même, tout ça d'un coup, ça fait peur un peu. Comment c'était, quoi, de travailler cet album? Il y a eu des bouts de doute aussi, de se retrouver seul à travailler sur un projet en entier. Est-ce que c'est...
Alors moi, je doute toujours énormément jusqu'à ce que je souffle dans le sax. C'est-à-dire que même sur scène, hein, avant, j'ai toujours le trac, j'ai toujours la boule au ventre et tout, tout le temps, hein, que ça soit pour jouer dans un zénith ou un petit club, et encore plus dans un petit club devant 10 personnes, ça fout encore plus les boules. Et pour l'album, ouais, jusqu'à l'arrivée en studio, en fait, j'étais un peu, je savais pas trop, quoi, comment j'allais me débrouiller.
On parlait des machines tout à l'heure que tu utilises, oui, et de tout le dispositif technique qu'il y a autour, ouais, de ça. T'es pas le premier à utiliser des effets sur un instrument avant. Il y a un parmi d'autres, mais enfin un gars qui s'appelait Eddie Harris dans les années 70. Mais toi, t'as quand même poussé la démarche à fond, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment et pourquoi et comment ça marche et tout?
Bah, c'est venu un peu par hasard, en fait, où j'étais chez un pote à Genève, il y avait des pédales dans son placard, je lui ai demandé si je pouvais essayer, et puis je lui ai rendu, je l'ai jamais rendu, en fait. Tellement c'était cool, non, j'ai flashé sur voilà, deux effets qui ont transformé mon son, et puis j'ai commencé à sortir des sons de guitare un peu funky, et j'étais là, mais waouh, quoi. Donc suite à ça, j'ai commencé à composer autour de ça, j'ai fait évoluer mon jeu de saxophone parce que du coup, c'était plus vraiment un saxophone, c'était un instrument qui faisait d'autres sons, quoi. Et puis quand on commence à mettre des pédales sur des micros, après on fait face à plein de problèmes électriques, d'alimentation, de buzz, de l'arsène, de signal appauvri, enfin il y a beaucoup de problèmes qui rentrent et qu'il faut les résoudre. Donc petit à petit, j'ai cherché des solutions, j'ai fait fabriquer des choses sur mesure. À force d'avoir des envies, en fait, je me disais, tiens, il me faudrait une pédale comme ça, mais je sais pas si ça existe. Donc j'ai dessiné un plan, j'ai fait faire ça à Paris. Après, j'ai rencontré un mec qui faisait des micros dans le bec du saxophone, j'ai travaillé avec lui. Ensuite, je lui ai demandé de faire un boîtier spécial pour pouvoir mixer mes micros depuis le saxophone. Et là, j'ai rencontré un autre mec qui a conçu un nouveau micro que je suis en train d'essayer. Et puis, je vais l'aider à le développer parce qu'il voudrait vendre ça. Et c'est un micro qui est génial pour les effets sur le sax, justement. Voilà, donc je travaille avec différents artisans et puis on fait évoluer le projet comme ça, quoi.
Mais Guillaume Perret ne serait-il pas un peu geek ?
Ah, c'est carrément geek là, parce que même la lumière qui est dans le sax et tout, c'est du circuit Arduino, c'est-à-dire des petites cartes électroniques qu'on programme via des ordinateurs. Alors moi, je fais des soudures, je fais que mes câbles. Hein. J'ai appris à faire ça parce que évidemment, quand on monte des pédaliers, après, faut savoir les réparer, faut savoir les entretenir, tout ça. Mais après, tout ce qui est à l'intérieur des pédales et les circuits qui sont sur mon saxophone aussi, ça, je m'en occupe pas, quoi. Moi, je dis, ouais, j'aimerais bien ça, puis le mec se débrouille pour trouver les composants et tout ça. Mais à la base, les envies viennent de moi, et puis j'ai trouvé les bons partenaires.
Ça fait un truc complètement ovni. Quand on repense à Open Me, pour prendre votre précédent album en groupe, cet album, il a fait l'effet d'une bombe dans la sphère du jazz contemporain, parce que c'est hyper créatif, c'est nouveau, c'était quand même assez unique. Et avec Free, c'est un peu pareil ce qui est en train de se passer, c'est que tu rends tout le monde fou, quoi, parce que ça surprend, en fait. Donc, d'où ma question, est-ce que tu as toujours été un peu en décalage ?
Ah oui. Oui, j'étais toujours, même à l'époque au conservatoire, au lycée, dans tous les projets. Enfin, j'ai toujours eu besoin de faire des choses à ma sauce. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de secret. Par exemple, pour mes élèves, je donne tous mes plans, en fait, toutes mes combines, tout ça. Quand je reçois plein de mails de gens qui me demandent mon système, des choses comme ça, je donne des workshops. J'ai aucun problème à dire ce que j'utilise, comment j'utilise et pourquoi je l'utilise et comment faire la même chose, parce que de toute façon je sais que je fais à ma manière et que quelque part on peut, enfin voilà, chacun est unique et puis il faut pas garder jalousement les secrets comme ça, il vaut mieux diffuser les choses. Et j'ai toujours souhaité deux choses en musique, c'est-à-dire la première chose pour moi la plus importante, c'est d'arriver à s'adapter à tout et à tout le monde. C'est-à-dire pouvoir autant jouer avec des excellents musiciens qu'avec qu'avec le clodo dans la rue, et arriver à tirer un moment musical de ça, c'est-à-dire à s'adapter, à se retrouver dans des musiques où on comprend rien, et puis chercher les clés pour arriver à s'insérer. Donc c'est vraiment un travail d'écoute. Et ma deuxième volonté, c'était vraiment d'arriver avec une proposition forte. C'est-à-dire que d'amener tous les groupes dans lesquels j'ai participé, j'ai essayé de les amener vers un ailleurs que je ne connaissais pas moi non plus, mais j'ai toujours eu envie de proposer des choses, que ça sorte un petit peu de la norme, d'interpeller les gens, que le public soit... Voilà, dès que je sens qu'une salle s'endort, je vais tout faire pour essayer d'intriguer, de faire voyager les gens, etc. Quoi. Donc ça, c'est... Voilà, c'est deux choses qui sont très importantes pour moi, en musique.
Tu parlais de voyage à l'instant. Avec Free, on voyage aussi. On passe de la poésie orientale à des airs de fanfare un peu New Orleans. Et puis, il y a ces gammes qui se baladent d'ethio jazz à des moments. On voyage dans le temps aussi. Il y a des moments où on a l'impression d'entendre un peu, je sais pas, un Duke Ellington. Il y a un moment de ses débuts. Et tu parles beaucoup de voyage. C'est quoi le truc ? Avec l'ailleurs et le voyage.
Je dis souvent que mes influences peuvent venir de tout pays et toute époque. Et pour moi, c'est des choses importantes, en fait. Je veux que cette musique, elle soit un peu comme une musique de film, c'est-à-dire que quand on écoute ça, on puisse se balader dans différents paysages, dans différentes atmosphères, et puis que ça kiffe, quoi.
Au-delà des tourbillons un peu bouillonnants, quoi, des fois, qui vient de l'énergie rock et tout ça qu'on peut voir sur scène, des fois, t'as un peu l'air d'un volcan qui s'énerve, et je me demande si des fois t'es pas un peu en colère.
En fait, je pense que j'ai des choses qui bouillonnent en moi fort, mais ça sort tout par le tube, quoi. Ça sort tout par l'instrument, et c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup d'énergie, en fait, qui sort de cet instrument, mais j'en ai besoin, hein. J'ai vraiment besoin de ça pour je sais pas comment je ferais sans ça, en fait.
Aucune c'est vital
idée. Ouais, jouer la musique, partager, s'exprimer à travers ça, c'est ça a toujours été vraiment important pour moi.
Format sur les bords. Et ben c'est rigolo parce qu'au-delà de ces tourbillons bouillonnants là dont on parle à l'instant, il y a des images sonores que tu utilises quoi pour construire ces voyages musicaux avec des plages qui sont quand même plus méditatives quoi, avec un supplément d'âme. Et du coup, quid de la spiritualité chez Guillaume Perret ?
Je dirais qu'on est plus là dans le domaine de l'émotion pure, en fait, tout simplement. À travers la musique, je vais passer par plein d'émotions différentes. Donc il y a une grosse dose d'énergie, et puis il y a des choses vachement plus sensibles, vachement plus fragiles qui sont là. Et puis j'aime bien le mélange des deux, quoi. Le premier album, j'aurais voulu l'appeler par le titre d'un de mes morceaux qui s'appelle Brutalum Voluptuous. Et je trouve que ça résume bien ça. Après, on n'a pas pu l'appeler comme ça parce que dans la série dans laquelle on est sorti chez Tzadik, c'était un truc pour les jeunes projets et il fallait que le nom de l'album soit le nom de mon groupe, quoi. Donc, j'ai pas
le label de John Zorn.
Voilà, le label de John Zorn. Donc, j'ai pas pu le nommer comme ça, mais je trouve que ça. Voilà, la brutale volupté, je trouve que ça résume bien le climat, quoi.
Ok. Non, parce que dans Open Me, il y a quand même un morceau qui s'appelle aussi Irma's Room. Alors, je me suis demandé si tu n'avais pas un petit penchant pour la magie et
carrément.
Autres.
J'ai toujours aimé les sorcières. Ah. Ouais. J'aime bien les sorcières. Dans le premier album, il y a tout un morceau sur Circé, dans l'Odyssée d'Ulysse. Et puis Irma's Room, moi, c'est un séjour, en fait, dans la demeure d'une cartomancienne, un peu sorcière comme ça, et il y avait une dame à Annecy que j'ai connue beaucoup plus tard, hein, quand je suis revenu, quand je revenais, voilà, une amie d'amis qui est malheureusement décédée maintenant, mais c'était une dame qui avait une maladie étrange, mais qui était extrêmement petite, très très mince, une petite branche d'arbre avec une tête, elle était pas si âgée que ça, mais elle avait une tête de vieille dame et elle faisait des cartes, elle dégageait une aura incroyable. Et puis elle m'avait tiré les cartes sur à deux moments de ma vie, et c'était des passages importants pour moi. Alors bah, c'est pas sur ça que je fonde mes croyances et mes résolutions et mes directions de vie, mais ça avait été des bons coups de pouce, quoi. Puis c'était surtout un moment complètement génial, quoi.
En quoi est-ce que tu crois, Guillaume Perret ?
Je crois en la gentillesse, je crois en la bonne vibe, en fait. Voilà, tout simplement. Là, l'équipe avec qui je suis avec Nadir et Manu, son et lumière. On est tous les trois dans la même longueur d'onde, et chaque fois qu'on arrive quelque part, voilà, on dit bonjour à tout le monde. On met tout le monde au même niveau, que ce soit les techniciens, les directeurs de salle, les journalistes, les plombiers, les musiciens, les pharmaciens. Enfin voilà, on essaye d'être juste humain. Et puis en général, bah, il se passe toujours de belles choses, en fait. Tout simplement, quoi. Et je crois en cette bonne vibe. Alors je sais que j'ai une mentalité un petit peu bisounours à la base, quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et il a pu m'arriver de m'entourer de mauvaises personnes et de me faire embarquer dans voilà, des trucs où je me suis légèrement fait avoir, mais jamais quelque chose de bien grave, en fait, quoi. Je suis d'une nature un petit peu naïve et plein de compassion. Mais voilà, moi je crois en ça, en fait, la bonne énergie, la bonne vibe, et puis à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, quoi.
Guillaume Perret, tu as travaillé avec plein de gens. Il y a eu Ibrahim Malouf, Laurent De Wild, le Maloya réunionnais l'Indigo, que j'aime
carrément.
Beaucoup. Pour le théâtre aussi,
oui.
Notamment avec une pièce de Yasmina Kadra, pour le cinéma, entre autres. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Pour parler vite fait du cinéma, tu disais tout à l'heure que tu aimais utiliser des images sonores et que voilà, tu envisageais tes morceaux comme de la musique de film. Parfois, s'il y avait un film dont tu aimerais faire la BO, ce serait lequel ?
Waouh, j'aimerais bien qu'un jour David Lynch il m'appelle. Rien que ça. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de climat complètement étrange, le monde parallèle et voilà, je dirais un peu ce genre de cinéma-là, quoi. Ouais.
Là, c'est le moment où tu vas choisir deux morceaux, un petit back-to-back. Moi, j'ai choisi deux morceaux pas encore vraiment déterminés. Mais en tout cas, j'ai choisi deux artistes. Mm-hmm. Ces deux artistes, c'est Magma, d'une part.
Génial.
Et Cinématique Orchestra, de l'autre.
Ah, super.
À toi.
Ah, ouais. Alors, moi, je dirais John Sorman, qui est un saxophoniste anglais qui a fait aussi des choses en solo, d'ailleurs. Mais Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a, il met en avant son côté de compositeur avant le côté saxophonistique. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un univers. Et puis là, comme ça, de but en blanc, je dirais... Allez, un petit Frank Zappa pour la folie, quoi.
T'as travaillé sur des projets autour de Frank Zappa avec le collectif du Bocal, notamment,
carrément.
Non oui. Tu peux me raconter un peu?
Oui, alors avec le Bocal, on avait fait deux albums, et puis on a eu une commande un peu spéciale du label Harmonia Mundi à l'époque, qui nous avait demandé de faire un hommage à Zappa, et puis du coup, bah, c'était une super commande, parce que on a choisi des morceaux qui nous plaisaient, sur une période un peu donnée, hein, et ça, c'était génial. Bon, c'était un peu s'attaquer à une montagne, hein, parce que Zappa, on avait tous un respect absolu pour son travail de compositeur, d'arrangeur, de chef d'orchestre, de guitariste, de chanteur, de rocker, de mec des glingos. Et ça fait beaucoup de casquettes qui sont toutes aussi dures à assumer les unes que les autres. Et voilà, donc on a fait cet album, moi, c'était une super expérience.
Le collectif du Bocal est encore actif. Il est un peu représenté ce soir en première partie, non?
Avec Thierry, ouais. Bah Thierry, c'est la base du collectif, quoi. Au départ, c'est quelque chose qui est né même dans les murs du Conservatoire d'Annecy.
Tu peux un peu expliquer peut-être pour les auditeurs?
Alors c'est au départ c'est tout simplement un big band, hein, jazz. Qui s'est assez vite démarqué par sa singularité du fait du fonctionnement. Déjà Thierry avait une écriture assez particulière, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Et puis par la suite, il a tout de suite ouvert en fait les portes aux compositeurs qui désiraient s'exercer, quoi. Et du coup, moi, au départ, j'étais vraiment saxophoniste et du coup très souvent soliste aussi, parce que j'avais toujours envie d'aller monter au créneau puis d'amener les choses autre part. Et puis par la suite, j'ai commencé à faire des arrangements puis des compositions pour ce groupe. Et grâce à ce projet, j'ai pu vraiment m'entraîner à écrire pour un orchestre, en fait, quoi. C'était vraiment une expérience utile et intéressante. Voilà.
Parmi les morceaux qu'on a choisis tous les deux dans ce back-to-back improvisé, il y a quand même une grosse part de jazz rock. Le jazz rock qui a eu quand même ses heures de gloire, mm-hmm, à un moment donné, puis qui a été rejeté par la suite parce qu'il y avait beaucoup de gens qui... Vous pensez que certains musiciens étaient plus des techniciens sans âme, quoi, dans le jazz rock. Sur scène, toi, tu arrives à faire ce compromis, non? D'être à la fois dans ta bulle et puis à la fois en connexion avec le public?
Oui, alors c'est vrai que c'est pas évident pour le jazz, qui a une très mauvaise image, et d'ailleurs, même auprès de moi-même, hein, parce que moi, j'ai vu vraiment une quantité de concerts qui m'ont gonflé grave, où je me suis ennuyé, et encore, je me suis dit... Et encore, j'entends avec mon oreille de musicien, donc j'entends que les gars sont bons, mais des fois, c'est carrément bruyant, quoi, parce que à force d'étudier cette musique, il y a un danger qui fait que, comment dire, quand on approche le jazz, il y a un degré technique sur l'harmonie, le rythme et des choses comme ça, sur l'improvisation, qui est super intéressant et qui permet d'ouvrir des portes à beaucoup de choses. Mais on peut vite s'enfermer, en fait, dans le jeu entre musiciens. Et du coup, ça devient une musique pour musiciens où les mecs vont pas du tout faire attention à l'aspect scénique et à ce qui sort en fait de scène, quoi. Et comment dire, j'ai vu beaucoup de jazzman qui se comparaient les uns aux autres, mais du coup, ça reste un monde minuscule. Donc il faut sortir de là. Alors moi,
c'est quoi qui compte sur scène?
C'est l'émotion. Faut qu'il y ait de l'émotion, quoi. Faut qu'on raconte des histoires. Faut que ça parle en fait. Quand je dis aux gens, c'est le public, mais c'est difficile à expliquer. On joue pas une musique pour le public, mais s'il y a pas le public, on peut pas vraiment la jouer pareil, en fait. On a besoin Donc, il faut entretenir cette relation. Enfin, moi, j'ai toujours envie que les gens ils soient tenus en haleine, qu'ils soient secoués, qu'il y ait des ruptures, qu'ils aillent dans tous les sens et puis qu'ils décrochent pas, quoi. Voilà, s'ils ont la chair de poule à un moment, c'est gagné, quoi. Et ou de l'excitation ou des choses comme ça. Il y a plein de sentiments qui sont possibles. Alors, moi, c'est particulier parce que sur scène, je suis moyennement expressif physiquement, on va dire. Enfin, surtout avec ce projet solo, parce que je suis très, très occupé par les manipulations que je fais avec mes pieds ou mes mains sur les différentes machines. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais progresser là-dessus, avancer là-dessus pour être un peu plus showman. Mais je ne le suis pas naturellement, en fait. Je suis vraiment dans mon monde. Donc après, ce que j'espère, c'est que mon monde musical, il passe outre mon corps et que les gens soient transportés par le son, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup axé la création sur un gros travail de lumière, de vidéo, d'objets lumineux, de choses comme ça. Il y a la blinde de fumée sur scène, c'est une ambiance un peu rock. Et puis voilà, on travaille dans ce sens.
Bon, avant de se quitter, Guillaume Perret, on va écouter un morceau d'un groupe brillant qui est du coin, qui fait du jazz rock aussi, et il s'appelle Les Contes de Korsakov. Ça te
non,
dit un
je
truc
je connais pas, mais je suis curieux d'écouter.
Et voilà, et les bords a rempli sa mission. On a mis un nouveau morceau dans les oreilles de Guillaume Perret. Est-ce que tu aimes le silence ?
Alors, j'aime le silence, mais j'espère que en vieillissant, je vais réussir à en insérer de plus en plus dans ma musique. C'est quelque chose que c'est très, très, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui, à la base, remplit pas mal. Je mets des couches de son. Mes albums en quartet, j'avais plus d'une centaine de pistes. Alors qu'on était quatre. Et puis après, je taillais, j'épurais. Mais voilà, j'admire les albums minimalistes et tout. Pour moi, c'est pas du tout ma nature. Mais j'ai énormément d'admiration pour les musiciens qui arrivent à tenir une salle en haleine avec deux notes et des climats comme ça. C'est quelque chose qui est, pour moi, qui est le plus difficile à faire, en fait. Mais j'espère petit à petit y arriver de plus en plus.
Merci beaucoup, Guillaume Perret. On rappelle ton album, il s'appelle Free, il est sorti mi-septembre sur ton label Kakum Records et on peut le trouver partout.
Oui, c'est distribué par Harmonia Mundi, on le trouve à Fnac, Amazon, la grande distribution aussi.
Et chez les disquaires
iTunes,
indépendants.
Et chez les disquaires indépendants, voilà.
Les longs formats sur les bords.